Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cette parabole, nous voyons donc un maître qui donne à ses serviteurs, à l'un 5 talents, à l'autre 2, puis au troisième 1 seul talent. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que le talent que nous avons reçu, en fait, c'est simplement notre vie. Mais nos vies, effectivement, ne sont pas égales les unes aux autres. Il y a des êtres qui reçoivent une vie avec beaucoup de capacités à faire fructifier, et d'autres, eh bien, qui reçoivent une vie moindre. Mais il n'y a pas de différence à faire entre le pape
par exemple, évidemment, qui reçoit une vie à faire fructifier d'une manière très particulière, il n'y a pas à comparer la vie du pape avec la vie du sacristain du village. Car, à bien y penser, mieux vaut être un bon sacristain qu'un mauvais pape. Et Dieu sait si dans notre Église, il y a eu des mauvais papes qui n'ont pas fait fructifier leur vie, alors que dans des villages, eh bien, il y a des très bons sacristains qui, eux, ont fait vraiment le job, avec beaucoup de générosité. Donc, il n'y a pas à se comparer les uns, les unes, les autres. Mieux vaut être, si vous voulez, un tout petit dé à coudre rempli d'amour et de grâce, qu'une vieille barrique à moitié vide et dans le fond de laquelle il y a de la lie. Donc, ne jugeons pas sur la capacité des uns et des autres. Le but, c'est de faire fructifier nos vies. Voilà un premier point. Un deuxième point sur l'interprétation de cette parabole. Et pour une fois, je vais vous demander d'avoir beaucoup de compassion pour le troisième serviteur qui, lui, se fait rejeter, expulsé par son maître, dans les ténèbres extérieures. Il ne faudrait pas interpréter cette parabole comme étant une parabole nous parlant des fins dernières et du jugement dernier. J'en veux pour preuve que ce brave serviteur qui n'avait reçu qu'un talent, lui, il a eu peur. Il y a là une vraie circonstance atténuante, vous savez. Il y a des gens dans la vie qui sont paralysés par la peur. Et donc, ils sont dans l'incapacité de faire fructifier leur vie. Et pour dire que cette parabole ne parle pas du jugement dernier, on peut simplement noter la raison de la peur de ce serviteur. C'est que son maître est dur. C'est que son maître moissonne là où il n'a pas semé. C'est que son maître ramasse le grain là où il ne l'a pas répandu. Ce maître est un dictateur. Ce n'est donc pas Dieu. Le Père qui nous a été présenté par Jésus est doux et humble de cœur. Et Dieu ne va pas s'accaparer les biens d'autrui. C'est encore la mode aujourd'hui, vous savez, d'aller moissonner sur des terres qui ne sont pas les nôtres, en chassant les gens de leurs propres terres. C'est d'actualité, en Ukraine, en Palestine, en Cisjordanie. Voilà. Les dictateurs sont durs. Donc, ce maître n'est pas une image de notre Dieu. Et pour cause, notre Dieu qui se révèle en Jésus manifeste comment il a d'abord de la compassion pour le troisième serviteur qui n'a pas fait fructifier sa vie. Il va les laisser, les 99 justes, pour aller chercher qui ? La brebis perdue. Qui justement a une vie presque de perdition. Dans la parabole du fils prodigue, le fils prodigue n'a-t-il pas dilapidé tous les talents de son père, tout l'héritage ? Il revient en ayant ruiné sa vie ? Il n'a rien fait fructifier de ce qu'il a reçu de son père ? Et comment le Père accueille-t-il son Fils ? Avec miséricorde. Quand Jésus observe au temple ces notables qui mettent des gros talents dans le tronc, de qui Jésus fait-il l'éloge ? Sinon de cette veuve qui a mis juste sa piécette. Parce que la veuve, elle a mis dans le tronc tout ce qu'il y avait dans son dé à coudre. Mais les notables, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le tronc? Juste leur superflu et peut-être en plus la lie qu'il y avait au fond de la barrique. Donc vous voyez que le jugement dernier, c'est un jugement de miséricorde. Il ne faut donc pas se tromper quand on lit l'Écriture. Il faut avoir l'intelligence des Écritures et l'Écriture s'interprète avec les autres Écritures. C'est ça l'intelligence. Donc ne faisons pas dire à une parabole ce qu'elle ne dit pas. Au jugement dernier, le but de notre maître, qui lui est bon, ce n'est pas de nous condamner et de nous jeter dehors, c'est au contraire de tout faire pour nous faire miséricorde. Et on le comprend quand même, qu'est-ce que c'est la compassion ? Par rapport à des gens qui sont dans des situations aujourd'hui qui ne leur permettent pas de faire fructifier leur vie. Pensez aux apatrides, à ceux qui sont sans terre ou qui ont été obligés de fuir leur terre. Pensez aux gens qui sont sans papier. Peuvent-ils faire vraiment fructifier leur vie ? Pensez aux gens qui sont sans domicile fixe. Croyez-vous qu'ils puissent faire fructifier leur vie? Pensez aux gens qui n'ont pas la santé, qui sont handicapés. Croyez-vous qu'ils sont dans des conditions idéales pour faire fructifier leur vie? Et Dieu notre Père, qui est doux et tendre, n'aurait aucune compassion pour ces gens qui reviendraient vers lui pour dire « ben, j'étais sans travail toute ma vie, j'ai pas pu faire fructifier grand-chose, Seigneur. » Et le Père, doux et humble de cœur, accueillera ses petits et ses pauvres, n'est-ce pas? Ou alors notre Dieu est comme ce maître, un maître inique, qui privilégie les riches au détriment des pauvres et des petits. Alors elle est belle, cette image que le livre des Proverbes nous propose sur la femme parfaite. Mais attention, vous messieurs, relisez ce texte des Proverbes en essayant de discerner qu'est-ce que c'est qu'un homme parfait. La femme parfaite, oui, elle est au service de son mari et de sa famille. Mais l'homme parfait, il est au service de sa femme et de sa famille aussi, à part égale. Donc attention, ne lisons pas non plus ce texte avec un fond de sexisme, si vous voulez. Et que fait cette femme qui fait fructifier sa vie, puisque c'est une femme parfaite? Eh bien, non seulement elle est au service de son mari et de sa famille, mais il y a cette belle description où il nous est dit que ses doigts, voilà, s'ouvrent en faveur du pauvre. C'est une image de ce Dieu qui est à la fois père et mère. Au jugement dernier, les doigts de Dieu s'ouvrent en direction du troisième serviteur de la parabole. Elle tend la main au malheureux, cette femme, nous dit le livre des Proverbes. Dieu ne tendrait-il pas la main aux malheureux qui comparaissent devant lui parce qu'ils ont eu peur toute leur vie et qu'ils n'ont pas su faire fructifier leur vie? Voyez le salut, qu'est-ce que c'est? C'est un puits de miséricorde. Donc, ne prêtons pas à Dieu des choses qui ne sont pas à lui en faisant des erreurs d'interprétation, n'est-ce pas? Et donc, n'ayons pas peur de ces paroles où Jésus dit « il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Évidemment, un patron ne fait pas de cadeaux à ses employés. Ceux qui font bien le job et qui rapportent du pognon à l'entreprise, ah, évidemment, ils sont récompensés. Mais les autres, qui ont des problèmes de famille et puis qui finalement ont du mal à honorer les exigences du patron, qu'est-ce que fait le patron? Il est fou dehors. Et ces gens-là se retrouvent au chômage, dans l'incapacité de continuer à faire fructifier leur vie. Et combien d'ouvriers ont peur de leur patron, n'est-ce pas? Voilà. Qui sont des dictateurs parfois. Donc, soyons vigilants, puisque Jésus nous dit ça, ou en tout cas saint Paul dans sa lettre, nous dit « soyez vigilants » et n'ayons pas peur du retour du Fils de Dieu, car saint Paul dit « vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ». Encore une fois, on ne va pas faire de différence entre la vie d'un pape et la vie d'un sacristain. Le sacristain, il est tout autant fils de la lumière que le pape, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce que nous dit simplement saint Paul, c'est « soyons vigilants ». C'est peut-être la seule exigence qu'il faut entendre dans cette parabole. Soyons vigilants. Ne restons pas endormis. Comme les autres. C'est vrai qu'on pourrait être oisif et que des fois, on ne fait pas grand-chose de nos vies, non pas à cause des autres, mais peut-être à cause de nous-mêmes, parce que nous nous laissons peut-être aller. Alors voilà, en tout cas, contemplons ce Dieu qui, effectivement, quand il verra comparaître devant lui le dernier serviteur qui n'a pas fait fructifier son talent, ce Dieu doux et humble de cœur, voudra dire à ce dernier serviteur, « Oui, moi aussi, t'inquiète pas, je veux que tu entres dans ma joie. » C'est ça la miséricorde.